Bonjour Fabrice, bonjour. Et bonjour à tous. Aujourd'hui, le destin incroyable d'une des femmes les plus célèbres de la Révolution française, Madame Tallien. Je te défends de voir Madame Tallien sous quelque prétexte que ce soit. Je la méprise, elle est devenue une femme déshonorée et infâme. Lettre de Napoléon à Joséphine. D'histoire. Parce qu'il reprochait à Madame Tallien le nombre de ses divorces et de ses amants, Napoléon avait interdit à sa femme de revoir sa meilleure amie, une des femmes les plus belles et les plus populaires de son temps. Madame Tallien, qui pendant la Terreur à Bordeaux, avait sauvé des dizaines de condamnés à mort en séduisant le représentant en mission, Tallien, qui allait devenir son amant, puis son deuxième mari. « Depuis des mois, disait-elle, je ne me suis pas couchée sans avoir sauvé la vie de quelqu'un. » Elle va même sauver un jour de la guillotine une femme qu'elle avait rencontrée en prison, au moment où elle était elle-même enfermée par Robespierre. Thérésia Tallien était alors marquise de Fontenay. C'était en 1794 et personne ne savait que ces deux femmes, condamnées à mort, allaient devenir célèbres, l'une qui sera bientôt la femme la plus influente du Directoire, et l'autre, la première impératrice de l'histoire de France.
Citoyenne Joséphine de Beauharnais, vous serez exécutée demain. Les ordres ont été donnés par le citoyen Robespierre en personne.
Mon amie, Thérèse de Fontenay, est également prisonnière ici. Elle est en contact avec des gens de l'extérieur. Il faut que je voie Thérèse. J'ai donc besoin d'un jour de plus.
Les ordres d'exécution sont prêts et nous serons remis demain matin.
Je t'en prie, aide-moi. Je fais ce que je peux, mais il est peut-être déjà trop tard. Regarde, le soleil, c'est un signe de chance. De chance.
Et la chance viendra en effet, puisque ces deux amies qui se sont rencontrées en prison, Joséphine de Beauharnais et la marquise de Fontenay, la future Madame Tallien, seront sauvées par la chute de Robespierre et la fin de la Terreur. Françoise Carmina, bonjour.
Bonjour.
Alors, vous avez écrit une belle biographie de Madame Tallien, publiée chez Perrin. Madame Tallien, dont tout le monde a oublié aujourd'hui le nom, alors qu'elle a été sans doute une des femmes les plus importantes, les plus populaires aussi de la Révolution, une des plus belles aussi, parce que c'était une femme dont le succès doit beaucoup à la beauté qu'elle avait et sur laquelle tout le monde est d'accord.
Elle avait effectivement une beauté exceptionnelle qui était due sans doute à son origine, parce qu'elle était à moitié espagnole. Son père était français, originaire de Bayonne, et sa mère était espagnole, madrilène. Donc elle avait la beauté
elle
andalouse.
Elle est née près de Madrid.
Elle est née, oui. Elle avait la beauté andalouse, c'est-à-dire une chevelure. On insistait sur sa merveilleuse chevelure de soie noire, une peau blanche, des yeux bruns, naturellement, puisque ça allait avec ce physique, très langoureux, un sourire ensorcelant, et des formes somptueuses, parce qu'en plus, elle avait une particularité un peu spéciale pour son temps, c'est qu'elle était très grande, elle mesurait près d'1m70. Alors, ce qui aurait été chez une autre, une allure dégingandée, au contraire, chez elle, elle était tellement bien proportionnée que c'était un atout de plus. Et c'était une beauté qui était reconnue, évidemment, par les hommes, mais aussi par toutes les femmes.
Alors, son père était effectivement un financier à la cour, je crois, de Madrid. Il l'envoie sa fille en France, il la marie à 14 ans, je crois, elle était très jeune, à un marquis, le marquis de Fontenay, son premier mari.
C'est ça, mais c'était un marquis de complaisance, comme il y en avait beaucoup à cette époque-là, beaucoup d'hommes politiques ou de magistrats s'ajoutaient une particule avec une terre qu'ils pouvaient posséder aux environs de Paris. Et alors lui, c'était surtout un homme très riche. Parce que une des caractéristiques de Madame Tallien, il y en a peut-être d'autres, c'est son goût de l'argent qu'elle devait à son père, qui était un financier très important, un banquier de génie, et aussi le désir d'occuper toujours partout la première place. Alors là, ce mariage, c'est un mariage d'argent, parce qu'il n'avait rien de séduisant, son mari.
Alors surtout, c'est un mariage qui se produit très peu de temps avant la Révolution. Madame Tallien, enfin devenue Madame de Fontenay, a plutôt de la sympathie pour cette révolution, mais elle est marquise.
Et elle va quitter Bordeaux au moment de la terreur. Et là, c'est là qu'elle se distingue pour la première fois en sauvant des quantités d'aristocrates qui étaient condamnée à mort par la terreur.
Oui, parce que justement, comme c'était une ancienne aristocrate elle-même, comme elle avait vécu, vécu pas longtemps, mais enfin, au début de son mariage, dans le milieu aristocratique et mondain de Paris, elle avait beaucoup de relations dans ce domaine-là, qu'elle a retrouvé à Bordeaux, parce qu'il y avait beaucoup de ces nobles qui essayaient de s'enfuir de France. Donc à Bordeaux, elle se retrouvait avec des femmes qu'elle avait connues précédemment, et elle les a beaucoup aidées, effectivement, pour d'abord pour échapper à la guillotine, échapper et retrouver la liberté et leurs biens. Il y en a plusieurs. Et c'est sa bienfaisance était très connue à cette époque-là. On avait recours à elle. On l'appelait Notre-Dame de Bon Secours.
Et puis, comment y arrive-t-elle quand même? Parce qu'elle-même pouvait être menacée. Bah, tout simplement en tombant dans les bras, ou en faisant plutôt tomber dans ses bras, l'homme chargé d'appliquer la terreur à Bordeaux, qui était tout simplement celui qui devient son amant et qui sera son deuxième mari, c'est Talien.
C'est ça. Alors, comme je vous disais à l'instant, comme elle allait directement par génie particulier, par goût, par intuition aux hommes de pouvoir. Elle, évidemment, quand Talien était là, était à Bordeaux, envoyé en mission, enfin, représentant en mission de la Convention pour mater les Bordelais girondins qui s'étaient révoltés contre la montagne. Donc, c'était l'homme de pouvoir, l'homme du moment. Et alors, donc, au lieu, elle se jette dans ses bras pour justement, elle a le goût, à la fois le goût du danger et l'idée qu'elle peut dominer le danger parce qu'elle est très belle. Et c'est ce qui se passe, ils tombent amoureux l'un de l'autre. Je dis l'un de l'autre parce que je crois qu'elle aimait aussi Talien. Ouais.
Mmh. En tout cas, lui, il aime tellement que bah il modère, il sauve pas mal de gens lui-même, lui qui était chargé de leur couper la tête.
Oui, oui.
Et alors, à tel point d'ailleurs, parce que c'est pour ça que la terreur à Bordeaux était beaucoup moins dure qu'à Nantes ou à Lyon, par exemple, des représentants en mission qui étaient féroces.
Absolument.
Et d'où l'inquiétude, les soupçons qu'à Paris éprouve Robespierre, qui va faire enfermer Madame Talien. Elle va se retrouver en prison elle-même.
Oui,
alors
enfin,
pas Madame Talien, Madame de Fontenay encore. Hein,
non, elle était divorcée. Elle avait divorcé de Fontenay. Mais alors donc, effectivement, comme vous dites, Talien fait partie de ces députés qui essayent de. Il était lié avec Danton et les Cordeliers. Donc il fait partie de ces révolutionnaires qui essayent d'arrêter un peu cette terreur. Alors il est soupçonné du crime suprême pour les Montagnards, qui était le modérantisme, et il est ramené à Paris pour se justifier, tout simplement, pour rendre compte de sa conduite. Elle doit finalement aussi quitter Bordeaux parce qu'il y a une loi qui vient de paraître qui interdit aux étrangers, aux demi-étrangers, aux nobles de se trouver dans des villes maritimes ou des postes frontières. Donc elle est obligée de quitter Bordeaux aussi. Elle vient à Paris, elle est poursuivie par Robespierre parce que justement à cause de sa liaison avec Talien, puisque Robespierre se méfie de Talien et il a raison de le faire puisque Talien va faire partie du complot formidable qui va aboutir à la mort de Robespierre, enfin à la chute de Robespierre. Donc Robespierre se méfie de Talien et il a l'indignité, Robespierre, et c'est assez extraordinaire, mais c'est vérifié quand même, de proposer à Madame Talien, enfin pas, elle n'était pas encore mariée avec Talien, à Teresa Cabarrus, qui est à la prison de la Petite Force, il lui propose de témoigner contre Talien et à ce moment-là, elle aura la vie sauve. Et bien, elle s'y refuse et c'est une chose qu'il faut noter dans la vie de Teresa Cabarrus, que ça prouve une de ses qualités fondamentales, à mon sens, son grand courage.
Alors elle est en prison, elle y rencontre Joséphine de Beauharnais, devenir amies pendant des années.
Oui, c'est le même genre de femme.
Et puis alors là, elle est en prison, elle est même menacée, elle va être condamnée à mort. Oui. Elle écrit cette lettre extraordinaire à son mari, qui n'est pas encore fait prisonnier, enfin qui ne le sera jamais d'ailleurs, à son futur mari,
ils se marieront en 94.
Elle lui écrit, l'administrateur est venu m'annoncer que demain je monterai au tribunal, c'est-à-dire à l'échafaud. Cela ressemble bien peu au rêve que j'ai fait cette nuit. Robespierre n'existait plus et les prisons étaient ouvertes, mais grâce à votre insigne lâcheté, il ne se trouvera bientôt plus personne en France capable de réaliser mon rêve, c'est-à-dire de faire tomber Robespierre. Ça veut dire, en fait, qu'elle a joué un rôle dans le complot qui se prépare contre Robespierre.
Oui. Elle l'a éprôné. Il a été très bien éprôné parce que on peut dire toutes sortes de choses sur Talien, et d'ailleurs l'histoire n'est pas du tout indulgente pour lui, il n'est pas du tout aimé dans l'histoire, mais il a eu le courage incroyable d'être le premier qui a bondi sur la tribune pour faire taire Robespierre. Il était armé d'un poignard, c'est le célèbre poignard de Talien. Il disait, si vous ne mettez pas immédiatement Robespierre hors la loi, je l'abattrai moi-même avec ce poignard, ce qui était une vue de l'esprit quand même.
Il n'y a pas un homme parmi nous qui ne préférerait mourir plutôt que de continuer à vivre sous la coupe d'un tyran.
Le citoyen Robespierre a été arrêté pour crime contre la Révolution. Et le citoyen Barras a pris la tête du gouvernement. Ordre a été donné de suspendre toutes les exécutions sur le champ. La terreur est finie.
Joséphine ! Oh, Thérèse ! Voici mon ami Paul Barras, Joséphine de Beauharnais.
Enchantée.
Talien ! Barras est à la tête du nouveau gouvernement. Sois gentille avec lui.
Et c'était la liberté pour Joséphine de Beauharnais, son amie Thérèse de Fontenay ou Thérèse Cabarrus, future Thérèse Thalien. C'est au lendemain du 9 Thermidor dont elle a été, au fond, même de sa prison,
une des
inspiratrices les plus importantes. Et là, elle devient extraordinairement populaire, un nouveau surnom, Notre-Dame de Thermidor.
Bah là, elle continue à faire le bien, si vous voulez, à sauver, sinon, des vies, puisque la terreur est terminée, mais du moins à faire sortir les gens de prison et aussi à aider au retour des émigrés. Alors donc, elle a une situation politique et surtout Talien à ce moment-là est l'homme important. On l'appelle, il a le surnom de l'homme du neuf Thermidor. Il est vraiment
celui
le roi.
Qui a fait tomber Robespierre.
Il
avec
est vraiment
Barras,
le roi pendant quelques mois, mais après il va gâcher parce que c'était pas un homme d'une grande intelligence et d'un grand sens politique. Et il a immédiatement gâché ses chances en exerçant trop de vengeance personnelle. Sa situation s'est dégradée. Mais enfin, il y a eu pendant plusieurs mois. C'est à ce moment-là qu'elle l'épouse. D'ailleurs, elle l'épouse un peu contrainte parce qu'elle attend un enfant. Ils auront une fille qui s'appelle Thermidor. Ça fait partie des dons de baptême fantastiques de la Révolution, ridicules de la Révolution. Mais après, il appellera sa fille Laure, parce que le prénom de Laure devient beaucoup plus, était à la mode sous la Restauration. Enfin bref, passons. Alors donc, ils se marient, et elle devient à ce moment-là la reine de Paris, enfin absolument.
Et d'un Paris dont vous rappelez le contexte, Françoise Kermina, c'était, d'abord, il y a eu effectivement une espèce d'épuration, commencer ce qu'on appelait les muscadins, pourchasser les rebelles.
Les Jacobins
dans la rue. Et alors, il y a eu c'est ce qu'on appelait les incroyables et les merveilleuses. On disait d'ailleurs les incroyables et les merveilleuses, parce qu'on prononçait pas les R. Qu'est-ce que c'était,
faut rappeler. Eh bien, c'était, si vous voulez, j'allais dire, le mâle et la femelle d'un nouveau type parisien. Alors, l'incroyable, c'était ils étaient spécialisés dans la chasse aux Jacobins. Alors, ils portaient un gourdin destiné à abattre tout Jacobin qui se présentait devant eux. Ils avaient des lunettes par snobisme, mais surtout parce que en fait, ils ne voulaient pas être engagés dans les armées. Alors, ils prétendaient être myopes. Enfin, bref, c'était pas très recommandable. Alors, les merveilleuses, c'était autre chose. C'était des femmes qui survivaient, si vous voulez, à l'antiféminisme jacobin, parce que les jacobins coupaient les têtes des femmes avant. Mais là, au contraire, c'était des femmes qui avaient survécu et qui, si vous voulez, qui défiaient les anciens jacobins par leur beauté, par leur outrecuidance, par leur liberté, par leur libertinage, par leur coquetterie dévergondée, par tout ce que vous voulez, parce qu'elle s'habillait de manière absolument démentielle. Elle s'habillait complètement, presque dénudée en plein hiver. D'ailleurs, il y en a qui ont attrapé qui sont mortes. Par exemple, Pauline de Beaumont, une des premières maîtresses de Chateaubriand, elle faisait partie de ces merveilleuses. Elle n'était pas assez couverte, elle avait la tuberculose.
Incroyable et merveilleuse qu'on retrouvait dans tous les salons, notamment celui de Barras, pour y participer à des fêtes somptueuses.
Ce soir-là, Barras donnait une de ces soirées fameuses, trop fameuses.
Madame Talien voudrait vous connaître.
Ah ben, oui, mais ce défaut que j'ai, figurez-vous, je m'en guéris de que je chante.
Oh, alors, venez vite chanter.
Vous êtes merveilleuse.
Enfin, il n'est pas normal que des femmes, qui ne sont d'ailleurs pas des catins de métier, portent des robes ainsi fendues jusqu'à la taille.
Je n'aime pas beaucoup qu'il cause avec Barras. Il est aussi dangereux que Robespierre, celui-là.
Oui, l'autre était l'incorruptible.
Oui, que Barras, lui, c'est le corrupteur.
Ma Lado Robin chantant une chanson déjà très célèbre à l'époque du directoire, je crois qu'elle date du 18e
oui,
siècle,
pas, François
Carmina.
Oui,
donc c'est
oui.
pas un anachronisme non, de l'avoir mise. Oui. Et alors on l'a chantée peut-être dans ces salons justement, dont la reine était Madame Tallien, hein, oui. épousée Tallien.
Et à ce moment-là, elle était Madame Tallien.
Elle était Madame oui. Tallien et c'est vraiment la reine de Paris. Oui. C'est la femme la plus importante
Absolument,
au fond de cette
oui.
époque
oui.
qui sera bientôt le directoire.
Et elle, mais elle est entourée d'autres beautés. Elle n'est pas la seule. Il y a évidemment Juliette Récamier. Il y a Joséphine de Beauharnais, il y a Fortuné Hamelin qui a un peu disparu de la mémoire historique, mais qui existe au musée Carnavalet sous forme d'un magnifique portrait. Donc c'était des femmes, de très jolies femmes, et qui n'étaient pas très, qui étaient très très intéressées. Enfin, elles étaient corrompues, enfin toutes, même Joséphine de Beauharnais aussi.
Et puis alors elle régnait au milieu de tout ça. Elle inspirait les modes. Hein,
oui, absolument. Ces fameuses modes grecques. Enfin, ces modes, les pieds nus avec des bagues. Alors elle racontait, elle, parce qu'elle aimait raconter son passé de façon un peu exagérée. Elle racontait qu'elle avait les pieds dans sa prison mordus par des rats, et donc elle mettait des bijoux à ses doigts de pied pour cacher ça. Façon, je crois pas que ce soit très, très exact. Mais enfin, et alors, il y a eu surtout la mode des perruques qui était extraordinaire, mais qui n'a pas duré d'ailleurs.
Des coiffures remplacé.
C'était remplacé, oui, c'était des perruques monstrueuses, enfin, de toutes les couleurs. Mmh. Et ça a été remplacé. Alors, qui ébouriffait les étrangers. Les étrangers, il y a des réflexions de pasteurs suisses assez drôles. Ils arrivent en France, pour eux, c'est visiter le Luxembourg, c'est ce qu'il y a la première chose à faire avant Notre-Dame. Et ils trouvent que les Françaises ont une façon extraordinaire d'avoir des modes grotesques, elles s'en sortent, elles sont quand même superbes.
Et c'est une époque aussi de très grande liberté sexuelle, hein, François Carmina, terreur, on se défoule, on verra Barras avec Joséphine de Beauharnais, puis ensuite...
Vous savez, Barras, c'est un personnage un peu équivoque. Pas seulement à ce point-là, mais au point de vue de ses mœurs. On se demande s'il n'était pas homosexuel. Dans les mémoires de Talleyrand, il y a un passage très drôle où Talleyrand arrive pour le voir, il le trouve sanglotant parce que son giton venait de se noyer dans l'étang du château de Grosbois. Alors Talleyrand est quand même un peu étonné parce que Barras est quand même
il fait appeler
le général Barras, puis enfin c'est un homme à poigne aussi.
Il devient l'amant de Joséphine, puis ensuite il se lasse de Joséphine, il va vers Madame Tallien qui du coup en oublie son Tallien, qui va d'ailleurs finir de manière assez triste. En tout cas, Madame Tallien, dont le salon de sa maison dans sa maison de l'allée des veuves,
ça ne
s'invente pas, la chaumière, c'était près des Champs-Élysées.
Il y avait beaucoup de veuves à ce moment-là. Hein.
Et ben, elle y recevait justement tous ceux qui comptaient à Paris et même ceux qui ne comptaient pas encore.
Général Bonaparte.
Ah, revenez plus tard, Madame Tallien est occupée. C'est le jour où elle tient salon.
Un certain général Bonaparte ou bas de la patte, quelque chose comme ça, demande à être reçu par Madame.
Bonaparte. Mais oui, faites entrer. Un général ? Quel général ?
Un général sans affectation, réduit à la demi-solde. Autant dire qu'il meurt de faim. Enfin, ce n'est pas son estomac qui le préoccupe.
C'est son cul.
Eh bien oui, figurez-vous que sa culotte est pleine de trous. Et comme le drap nécessaire à la confection d'une culotte d'uniforme est réservé aux seuls officiers en service. Non, mais venez, général. Venez que je vous présente.
Madame Récamier.
Madame de Staël. Madame de Beauharnais.
Général, j'ai pour vous de bonnes nouvelles. J'ai pu me procurer une pièce de drap. Il y aura de quoi vous faire faire, non pas une, mais deux culottes.
Deux fois merci. Ainsi qu'à toutes ces dames.
Général, une tasse de chocolat.
Et oui, c'était l'époque... où Bonaparte se faisait faire ses culottes par Madame Tallien. C'est parfaitement authentique.
Absolument,
vous l'écrivez, Françoise Carmina.
Et d'ailleurs, c'est peut-être à la base de la rancune qu'a eu Bonaparte pour elle, parce que justement, quand elle lui avait fait donc donner un bon d'habillement, et la fois suivante, quand il est venu chez elle, elle lui a dit « Alors, vous êtes content, vous avez eu vos culottes ?» Alors ça n'est pas passé.
Bonaparte qui était amoureux de Madame Tallien, elle lui plaisait beaucoup, mais elle se foutait complètement. Lui, il était rien
du tout. Mais là, elle a fait le mauvais choix, là, parce que c'est Joséphine qui a fait le bon choix. Joséphine avait 10 ans de plus qu'elle. Joséphine a fait une fin, finalement, en épousant Bonaparte, puis elle se devait de se dire que c'était pas un avenir bien brillant. Alors qu'au contraire, Thérésia Cabarrus croyait avoir une position de premier plan en étant la reine du Luxembourg. Finalement, c'est tout à fait le contraire qui s'est produit. L'une est devenue impératrice des Français et l'autre a été décriée complètement dans l'opinion.
Et pour un peu, si elle avait cédé aux avances de Bonaparte, eh bien c'était Madame Thalia qui devenait impératrice.
Elle aurait été une très belle impératrice, je crois.
Alors elle va continuer de mener une vie assez aventureuse. Elle abandonne Thalia, Barras, ou c'est elle qui abandonne Barras ou c'est lui qui l'abandonne. Elle se retrouve dans les bras, d'un banquier. Encore une femme d'argent, c'était Ouvrard. C'est encore une aventure.
Ouvrard, c'était un génie de la finance. Mais alors pour elle, c'était descendre encore un degré dans l'opinion, parce que ce qu'elle voulait, elle aurait voulu, après le 9 Thermidor, récupérer sa position sociale dans le milieu dont elle était originaire. Et elle n'a fait que faire des erreurs qui l'ont au contraire précipité de plus en plus bas. Parce que Ouvrard était un génie de la finance, mais c'était pas comme par exemple le banquier Laborde qu'elle avait connu dans sa jeunesse, qui était un mécène, un conseiller du roi, qui avait une position de premier plan dans le gouvernement. Ouvrard, c'était tout simplement un turcaret, quoi, un enrichi, de la pire manière, puisque c'était un fournisseur, il avait des marchés de fournitures militaires, c'est-à-dire que les soldats allaient nu-pieds en loques pendant que Ouvrard et d'autres n'étaient pas le seul, s'enrichissaient et menaient une vie de nabab à Paris. Donc pour elle c'était une erreur fondamentale si elle voulait récupérer son prestige social. Alors, mais c'était aussi un amour, et je dirais que c'était un amour parce qu'ils ont eu 4 enfants ensemble quand même.
Alors, ça l'empêche pas de continuer à mener une vie luxueuse, un peu insouciante, car elle ne se rend pas compte que justement dans ces bals qu'elle organise ou auxquels elle participe, elle est petit à petit, elle n'est plus du tout en grâce, et que Napoléon, qui d'ailleurs assiste lui-même à ces bals, n'aime plus du tout justement la légèreté de Madame Thalia.
Avec quelques gouttes de ce parfum enivrant, un bustier remodelé et un soupçon de rouge, je sens que Monsieur Aubert va être subjugué jusqu'à ce qu'il apprenne que je suis encore enceinte.
L'enfant est de lui, cette fois?
C'est probable.
Ah, si tu savais comme je t'en veux.
Mettez autant de bûches que vous le pourrez dans toutes les cheminées. La plupart de ces dames sont si légèrement vêtues qu'elles risquent d'avoir froid. Joséphine? Nous n'avons pas salué tous nos hôtes.
Tu ne dis pas bonsoir à notre amie Thérèse ? Tu as été grossier avec
elle. Je ne veux pas d'elle chez moi. Cette femme est frivole. Elle ne peut qu'embarrasser les gens respectables. Elle ne sait même pas qui sont les pères de ses 4 enfants.
Je te trouve bien sévère, Bonaparte.
Ça suffit. Je vois que le citoyen Talleyrand est arrivé.
Talleyrand ?
Et oui, si elle a été la reine du directoire, Madame Thalia, Françoise Carmina, elle n'est plus du tout la reine sous le consulat et sous l'Empire. Non. Et là, il y a une disgrâce assez pathétique. Ça va durer une trentaine d'années. Elle n'arrive plus à rencontrer son amie Joséphine, en plus.
Oui, mais réussit un coup extraordinaire. C'est le coup le plus extraordinaire de son existence. C'est qu'elle arrive à se faire épouser justement par un de ces rejetons de cette noblesse où elle veut se réinsérer, le comte de Caraman, qui devient peu après le prince de Chimay. Et moi, je trouve prodigieux qu'une femme qui a été terroriste, cataloguée comme terroriste à Bordeaux, la femme d'un terroriste, la maîtresse d'un homme corrompu, la maîtresse d'un financier véreux, et qui en plus a des bâtards en quantité, que le comte de Caraman ait pu épouser cette femme-là. Alors ça, moi, je trouve que c'est...
Le comte de Caraman, futur prince de Chimay, devient princesse.
Mais ça prouve, il y a eu d'ailleurs une résistance de la famille formidable, mais lui s'est entêté, il l'a épousée, et ça prouve qu'elle avait encore, elle avait 30 d'années, qu'elle avait un charme extraordinaire, inexplicable.
Que devient dans cette affaire le pauvre Thalien,
eh bien, le Thalien a commencé comme
il s'est jamais remis de la rupture avec sa femme.
Et surtout de ses erreurs politiques. Alors, il a accompagné Bonaparte en Espagne, en Égypte. Oui. Et ensuite, il a eu un poste en Espagne un poste administratif tout à fait quelconque. Il est mort dans la misère, finalement. Mais elle l'a aidé, mais elle l'a jamais renié vraiment. Pourtant, ce nom de Thalien lui collait à la peau. Mais même princesse de Chimay, il meurt en 1820, c'est ça. Et alors, elle apprend sa mort au moment où elle est dans un cercle de femmes chez elle, d'aristocrates chez elle. Elle leur dit, mesdames, je viens d'apprendre la mort de Monsieur Thalia, permettez-moi de me retirer dans mon appartement. Et je trouve que rien que ça, c'est noble, et ça prouve qu'elle a eu du chagrin à ce moment-là, quoi, qu'elle avait encore un sentiment quelconque pour Thalia.
Alors, chez elle, c'était à Chimay, c'est-à-dire dans les Ardennes belges. Alors là, elle devient pratiquement une dame patronesse.
Et surtout,
elle se range
alors,
en quelque sorte.
C'est encore à noter, si vous voulez, à son crédit. Comme elle a une faculté d'adaptation extraordinaire, elle s'adapte à ce milieu-là. Il se trouve que les Chimay ont une réputation de mélomane qui remonte à Charles Quint. Ce sont des musiciens de père en fils. Et son mari est un grand musicien, ses fils en sont, et elle-même se met elle a quelques petits dons de musicaux, mais enfin, elle reçoit des musiciens, Auberge et Cherubini. Elle a un théâtre où elle produit les œuvres de ses musiciens. Et cette tradition musicale perdure encore, puisque à Chimay, je ne sais pas si vous le savez, mais à Chimay, il y a un festival, encore maintenant, il y a un festival de musique de chambre très important.
Dieu, Madame Tallien, alors.
En partie.
En quelque sorte, oui.
En partie.
Enfin, bah, excusez-moi, la princesse de Chimay.
Oui, c'est ça, en partie.
Elle a eu tellement de noms qu'on s'y perd un peu, Françoise Carmina. On dit qu'à la fin de sa vie, c'est quand même assez pathétique. Cette femme qui a été magnifique, bah, elle était plus du tout, elle ressemblait plus du tout à ce qu'elle était à l'époque du directeur de la Révolution.
Mais ce qui est pathétique, c'est pas qu'elle ait grossi et qu'elle ait vieilli, ce qui arrive à toutes les femmes. Mais ce qui était pathétique, c'est que, en tant que princesse de Chimay, officiellement, elle n'a jamais été reçue à la cour de Hollande. Et son mari, à mon sens, a eu l'indignité d'aller, il était chambellan du roi de Hollande, d'aller à la cour avec ses enfants, avec leurs enfants, tous deux, et en laissant sa femme. Il admettait que le roi des Pays-Bas ait cet ostracisme pour sa femme. Pourquoi? Parce qu'elle s'appelait Madame, parce qu'elle était Madame Tallien.
Elle avait été Madame Tallien, on n'oubliait jamais qu'elle
jamais,
était
jamais, on n'a jamais oublié. Et d'ailleurs, c'est toujours la même chose, parce que
le livre
ne s'appelle pas La princesse de Chimay.
Une photo d'elle magnifique, enfin une gravure d'elle qui est absolument magnifique.
Ah oui,
au fond, parce que c'est un personnage très ambigu, comment la définir? C'est une femme légère, superficielle, qui a le goût de l'argent, et en même temps d'une extrême bonté au fond.
Oui, c'est ça. Alors, bonté parce qu'elle aime la vie. Elle aime la vie, elle est généreuse de la vie, elle aime la vie, et c'est ça qui la caractérise, une très grande vitalité, une capacité de surmonter tous les échecs, de surmonter tous les dangers, toujours avec cette générosité. Et c'était une véritable générosité.
Elle est morte très âgée en 1835.
Pas tellement âgée, non. La fois qu'elle avait, enfin, âgée pour son temps, peut-être.
Oui,
elle avait 60 ans. Elle avait donc trois enfants, plutôt, deux fils et une fille avec le prince de Chimay. Et les Chimay sont toujours à Chimay. Ses descendants.
Et pour en savoir plus, Françoise Carmina, je recommande la lecture de votre livre, Madame Tallien, une belle biographie publiée aux éditions Perrin. Je crois que vous avez également édité chez Perrin Agnès Sorel, dont vous avez dû nous parler dans 2000 ans d'histoire. Vous avez pu entendre des extrait des films Napoléon et Joséphine de Richard Effron chez Warner Bros. Et La Révolution française, Les années terribles, également de Richard Effron aux éditions Ariane Vidéo, ainsi que deux films disponibles en DVD aux éditions Zone 2, le Napoléon de Sacha Guitry avec la fantaisie de Sacha Guitry, on a entendu un passage, et puis celui de Yves Simoneau, donc, aux éditions Zone 2. Toutes ces références sont disponibles par téléphone au 32-30, 34 centimes la minute, ou sur franceinter.com. C'était 2000 ans d'histoire, la technique Sophie Moreno et Patrick Henry, documentation Claire Destacan, Emmanuel Fournier et Franck Olivard, une réalisation de Anne Kobilac.